philosophe ne s'intéresse pas qu'à l'homme, mais également à l'animal.
L'homme et la bête, c'est la thématique des journées philosophiques de Vienne qui commencent aujourd'hui, au programme des conférences, mais aussi du slam, du théâtre, du cinéma et même de la danse.
Nous sommes avec Gauthier de Salis, professeur de philosophie au gymnase de Vienne et co-président de la partie francophone des journées philosophiques. Gauthier de Salis, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup de votre invitation.
Avec plaisir. Dites-nous, pourquoi cette thématique de l'homme et la bête?
Alors, peut-être pour revenir à cette question de pourquoi avoir choisi ce thème, je prendrai peut-être un petit exemple tout simple que j'ai trouvé une fois dans un livre, un auteur qui se demandait, au fond, pourquoi est-ce qu'il y a des philosophies de ceci ou de cela? Dans les facultés, il y a de la philosophie morale, de la théorie de la connaissance, mais parfois aussi sur les sites internet publicitaires d'entreprises, on voit que les gens affirment une philosophie de ceci ou de cela, et on peut se demander pourquoi de la philosophie morale ou de la religion et pas de la philosophie des chaussures ou bien du baseball. Et donc, je crois que la réponse, elle se trouve au fond aussi un petit peu dans l'histoire, c'est-à-dire que souvent ce qui est mis au devant de la scène, disons, des discussions philosophiques, ce sont les préoccupations majeures de l'époque. Les médiévaux qui étaient préoccupés par la question de comment parler de Dieu, s'intéresser au langage. Et dans la société d'aujourd'hui, on vit un certain nombre de questions et de problématiques en rapport avec l'animal qui nous mettent à un point où on ne peut plus reculer devant ces questions. Nous sommes arrivés à un point où à la fois nous protégeons l'animal et en même temps nous l'exploitons d'une manière systématique dans des proportions qui n'ont jamais été atteintes à travers l'élevage industriel. Et il semble qu'il y a ici une contradiction qui doit être levée. C'est une question qui devient, je dirais vraiment, qui ne peut plus être évitée.
Alors c'est nouveau qu'on s'intéresse à l'animal en philosophie, ou est-ce que ça avait déjà quand même été un petit peu abordé par des philosophes antiques, des philosophes médiévaux, ou encore plus tardifs que ça?
Alors je ne peux pas résister ici à la tentation de vous donner une petite citation de Plutarque, cet auteur à la fois grec et romain, qui jetait ainsi donc des ponts entre ces deux communautés, comme aujourd'hui la ville de Vienne jette des ponts entre deux communautés linguistiques. Plutarque, au 1er siècle déjà, se demande comment l'homme peut-il jouir de manger de la chair. Et alors qu'il reconnaît le droit aux hommes de la première heure, entre guillemets, de manger des animaux par nécessité, il nous rappelle que, je cite, « Nous, civilisés, nous qui vivons sur une terre cultivée, riche, abondante, nous n'avons aucune raison de tuer pour manger. » Voilà Plutarque qui nous dit ça au 1er siècle. Je trouve ça assez étonnant, parce que si on s'imagine un peu quels étaient les moyens techniques de l'Antiquité romaine au 1er siècle, évidemment, ce n'est pas nos élevages industriels. Déjà, à ce moment-là, Plutarque dit, mais au fond, on a moyen de s'en passer. Nous avons une certaine abondance, qui fait que nous ne sommes plus obligés de tuer des animaux pour nous nourrir.
C'est le premier vegan ?
En quelque sorte. En tout cas, il y a apparemment une petite controverse. Hein. Ici, apparemment, le préfacier de ce petit livre de Plutarque, qui a fait cette traduction de ce traité sur les animaux de Plutarque, prétend que ça n'aurait pas de conséquences pratiques. Je viens de trouver un petit article dans les cahiers antispécistes d'une auteure qui remet ça en question, qui pense que Plutarque était très probablement végétarien.
Est-ce que c'est possible, en tant qu'humain, d'essayer de mener des réflexions philosophiques sur sur les animaux, alors que jusqu'à maintenant, enfin, entre parenthèses, on l'a fait uniquement sur des humains?
Alors, justement, c'est peut-être ce point-là qui devrait être un petit peu remis en question avec ces réflexions. Effectivement, si on parle de la philosophie, je dirais, à partir du XVIIe, on voit clairement un tournant humaniste. Et la question de l'animal disparaît effectivement pour longtemps de l'horizon de la philosophie. Ça n'a pas toujours été le cas. Et je pense que, disons, dès lors que la philosophie n'a pas de limites de principe concernant les sujets qu'elle peut traiter, c'est, je pense, au contraire, une opportunité importante de se demander, au fond, si ce préjugé anthropocentrique de cet humanisme dur a encore lieu d'être et s'impose vraiment.
Et est-ce que on va trouver des réponses pendant ces journées philosophiques, ou alors surtout se poser des questions ?
J'explique souvent à mes élèves justement que ce qui distingue la philosophie, par exemple, de la science, c'est que les réponses, bien qu'on s'efforce de les donner de manière la plus rigoureuse possible, sont toujours provisoires et sont jamais assurées pour très longtemps. Il semblerait qu'on tue la philosophie si justement on prétend que les questions qu'elle pose sont réglées une bonne fois pour toutes. Donc évidemment, c'est le but du jeu, c'est de se frotter un petit peu à ce questionnement dont on sait avec modestie qu'il sera probablement jamais fini, mais que nous ne pouvons pas éviter, que nous ne pouvons pas refuser, sauf à refuser notre liberté.
Alors Gauthier de Salis, actuellement on se pose beaucoup de questions sur le respect qu'on doit aux animaux, notre façon de traiter ceux qu'on va manger, s'il est même légitime de les manger. Ce sont des questions que vous allez aborder ce week-end?
Oui, bien sûr. Bien sûr, peut-être de façon un peu indirecte, mais au fond, c'est un petit peu le cœur du problème. Il y a eu des discussions au moment d'inviter les intervenants, où il y a eu un petit peu une tentation peut-être d'amener des positions très controversées, par exemple avec des lobbies de producteurs ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut voir, c'est que avec cette question de l'élevage et de la viande qu'on élève pour la manger, on a vraiment un point aveugle de nos pratiques sociales. Si vous regardez un petit peu les métiers qu'on montre aux futurs apprentis, etc., on emmène les gens dans des ateliers d'horlogerie, etc., on ne les emmène jamais dans les abattoirs. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui doit nous interpeller, et je dis souvent à mes élèves que ça ne sert à rien de se poser des questions philosophiques si on ne peut pas, à un moment ou à un autre, même de manière indirecte, les rattacher à une préoccupation qui compte pour nos vies. Donc là, on a vraiment le cas de manière tout à fait claire. Oui, c'est évident que on y arrive peut-être indirectement. Le but n'est pas d'aller de plein pied peut-être que dans les questions d'éthique et de droit de l'animal. La question va peut-être être prise un peu plus au fond. Qu'est-ce que c'est que l'animal, les animaux, l'homme, ce qu'il y a vraiment un critère du propre de l'homme, etc. Ce sont ces questions-là qu'on discute, et évidemment, les conclusions que l'on tire peuvent pas être sans conséquences éthique, juridique. Donc, bien sûr, cette question viendra nécessairement sur le tapis.
Est-ce que ces questions-là, justement, on se les pose encore plus aujourd'hui, actuellement? C'est vraiment une époque où ces questions sont encore plus fortes qu'auparavant?
Oui, je pense que un des points qui font que ça devient quelque chose de vraiment incontournable, c'est la prétention qui devient de plus en plus habituelle dans nos sociétés d'imposer quelque chose comme des bonnes pratiques, c'est-à-dire l'élevage, d'accord, mais à condition d'y mettre les formes, de respecter l'animal, etc. Et ça amène à un point qui semble aujourd'hui contradictoire dans la structure même du droit, puisque nous avons des codes qui impose un certain nombre de normes, de bonnes pratiques, on n'a plus le droit de faire ceci ou cela, mais néanmoins, le Code civil continue de considérer, dans la plupart de nos pays, l'animal comme une chose appropriable, tuable, et donc, il y a là une sorte de tension qui devient pratiquement une contradiction. Et je pense que c'est de ce fait que notre époque est vraiment confrontée ici à une espèce de dilemme, à une espèce de situation où de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que tôt ou tard, il faudra trancher. On est là avec une situation qui fait un petit peu penser au grand changement de modèle, par exemple, lorsqu'on a discuté, par exemple, d'abolir l'esclavage, d'abolir un certain nombre de pratiques dans des époques antérieures. Et j'ai fortement l'impression que peut-être que d'ici quelques décennies, quelques siècles, les générations futures se souviendront de la nôtre qui pratique encore l'élevage de masse, peut-être avec le même sentiment un peu étrange avec lequel nous nous rapportons aujourd'hui, par exemple à l'Antiquité, qui pratiquait l'esclavage, les jeux du cirque, alors qu'il s'agissait d'une civilisation brillante par ailleurs et très évoluée. Vous voyez, cette espèce d'étonnement et de malaise qui nous saisit quand on pense à cette manière de traiter autrui dans les jeux du cirque, peut-être qu'un jour il saisira les générations futures de la même façon lorsqu'ils se rapporteront à notre époque.
Est-ce que ceux qui vont participer à ce week-end des journées philosophiques de Bienne vont tous devenir des militants de la cause animale?
Alors, ici aussi, peut-être pas un militant, Mais je pense que c'est important de pouvoir, d'une certaine façon, comme je le disais, rattacher les réflexions philosophiques qu'on conduit à sa propre expérience de vie, à sa propre existence. Je pense que s'il n'y a aucun rapport entre ces deux domaines, on est dans le « faites comme je dis, pas comme je fais », vous voyez. Donc, soit on sombre dans une sorte de folie, une sorte de dédoublement, soit on prend le parti d'un pur cynisme et on dit oui, je sais, ce serait bien de ne pas faire comme ceci ou comme cela, mais bon, je le fais quand même. Et bon, le cynisme, pour moi, c'est une espèce de folie. Donc, peut-être un militant, non, pas nécessairement, mais c'est évident que on peut, disons que ce qui a été pensé ne peut plus être retiré. Donc, dès lors qu'on a conduit peut-être une certaine réflexion qui nous amène à certaines conclusions qui semblent contraignantes, il me semble difficile de pas en tirer les conséquences dans ces modes de vie.
Là, on parle beaucoup de l'homme et de l'animal comme étant deux choses détachées. Est-ce qu'il y a une part d'animal dans l'homme, d'après vous ?
Alors, je dirais même plus loin, je dirais plus qu'une part. L'homme est un animal. Il n'est pas un animal comme les autres, pour la simple raison qu'aucun animal n'est un animal comme les autres. Et c'est une formule que j'emprunte ici à Florence Burga, qui viendra parler le samedi. C'est une manière de questionner, au fond, ce discours sur le propre de l'homme. Il y a une façon d'être humaniste, qui est probablement héritée de la conception de Descartes, qui voudrait que être un homme soit quelque chose qui doit être défini d'une façon métaphysique, c'est-à-dire dire qu'il y aurait une substance qu'est cet homme qui serait séparée de tout le reste, du tout de la nature. Et je serais plutôt, pour ma part, pour défendre l'idée selon laquelle, au fond, être un homme, c'est d'abord une notion éthique. Sur un plan strictement naturel, il n'y a pas de propre de l'homme, davantage qu'il y aurait un propre du chien ou du cheval qui permettrait de distinguer ces espèces de toutes les autres. Voyez, pour moi, l'homme est une espèce, bien sûr, qu'un naturaliste peut classer, étudier, etc. Mais lorsqu'on pose la question de l'homme sur un plan éthique, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire sans faire de suppositions métaphysiques sur lesquelles on se baserait pour justifier une sorte de priorité éthique de l'homme.
L'homme et la bête, c'est donc le thème de ces journées philosophiques de Vienne qui commencent aujourd'hui. Gauthier de Salis, on vous remercie beaucoup d'être venu nous présenter un peu, débroussailler tout ce grand sujet avec nous ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
On pourra retrouver toutes les informations sur le blog. Belle journée.
Merci à vous de même.
À bientôt.
Format 3, c'est terminé pour aujourd'hui. On revient demain. On vous emmènera notamment en balade littéraire sur les rives du Doubs. À bientôt.
À demain.
On se réjouit. À 3, c'est plus sympa. Format à 3.